Alors, Jonas chapitre 3, et on va lire le chapitre en entier. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, et il criait et disait: Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes et les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leurs mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. On se souvient de ce Jonas qui reçoit cette mission d'aller à Ninive. Ninive, une ville terrible, qui fait peur, cruelle, méchante, hein, et dont justement le péché est monté vers Dieu. Mais Jonas refuse cette mission au départ, et il s'enfuit en Méditerranée pour aller vers l'Espagne, on pense. Et finalement, Dieu va le rattraper avec un poisson dans lequel il va méditer pendant 3 jours et 3 nuits, et finalement va se repentir de sa fuite, hein, et on se retrouve là au chapitre 3 où il va enfin accepter cette mission. Et donc, après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans ce poisson, j'imagine qu'il y a eu une belle réflexion à ce moment-là, il est vomi sur la terre, hein, il vient de se repentir et il décide d'aller quand même vers Ninive, accepter cette mission que Dieu lui avait confiée. Et donc, il se déplace vers Ninive. Hein. Alors, il a fait quand même beaucoup de kilomètres avant, enfin, d'accepter cette mission. Hein. Comme quoi, des fois, on est prêt à fuir le plus loin possible. Mais comme j'avais dit la dernière fois, Dieu nous rattrape de toute façon. Alors, à quoi faire l'effort de fuir si, de toute façon, on sait que Dieu nous rattrape, hein. Bon, ça, c'est pour nous. Hein. Et donc, il va adresser ce message de Dieu à ses habitants de Ninive. Et quelque part, on va faire un parallèle avec nous, et c'est très bien ce qu'on a dit tout à l'heure avec les missionnaires, etc. C'est que nous aussi, on doit annoncer l'Évangile autour de nous. Alors, 3 choses au travers de ce texte. Hein. D'abord, que cette offre de salut de Dieu est notre mission en tant que croyants. On doit annoncer ce salut aux autres. Puis que cette offre du salut doit être proclamée. Et surtout, qu'on va voir, elle peut avoir un impact, et même des fois plus surprenant qu'on le croit. Donc voilà, l'offre du salut est la mission en fait du croyant, et c'était là la mission de Jonas vis-à-vis de Ninive. Dieu lui a confié une seconde fois la mission. Il vient de se repentir, on l'a dit, et on voit là toute la patience de Dieu avec nous quand nous disons non, non, je veux pas avancer, je veux pas te servir Seigneur, j'ai peur, etc. Dieu est patient. Si on pouvait être patient comme ça les uns avec les autres des fois. Et Dieu reste patient à notre égard, parce que son but, avec Jonas en tout cas, c'était pas de le punir, de le casser pour le casser. Son but, c'était de le rétablir. Et chaque fois, peut-être que Dieu nous arrête aussi, et ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal ou du tort, c'est parce qu'il veut nous rétablir pour qu'on se mette en marche. La correction de Dieu est toujours constructive. Elle est constructive, et elle a pour but notre sanctification et notre croissance dans la vie chrétienne. Si Dieu m'arrête à un moment, c'est pas parce qu'il m'aime pas, ou s'il me punit, c'est parce qu'il m'aime justement, parce qu'il est mon père, et parce qu'il veut que je progresse plutôt que je reste là où je suis bien souvent statique, ou parce que je refuse tout simplement d'avancer. Mais Dieu confie à nouveau la mission à son prophète, et Dieu, il n'est pas rancunier là-dedans, si on y réfléchit un petit peu. Il aurait pu se dire, oh là, il a refusé la première fois, ben il va refuser la deuxième, allez, on le met de côté, il n'est pas valable comme serviteur. Il n'est pas rancunier, au contraire, il remet Jonas au travail. Il le remet au travail et en fait, il le fallait de l'avant. Il l'encourage quelque part. C'est formidable, non? Parce que nous, quand quelqu'un ne fait pas ce qu'on lui demande, généralement, on ne va pas lui demander une deuxième fois. Bien souvent. Peut-être par rapport à nos enfants, nos ados aussi, peut-être. Mais Dieu nous donne là une leçon. C'est pas parce qu'on s'est planté la première fois qu'on ne peut pas essayer d'aider la personne à aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on fait grandir les gens. C'est pas en les arrêtant. Mais c'est, oui, il faut bien reconnaître des fois qu'on pêche. On est d'accord, mais c'est pas fini. On recommence et on recommence. Et on encourage comme ça les gens. Et là, Dieu nous donne une bonne leçon dans ce domaine-là. Dieu ne confie pas des missions à des gens parfaits. Parce que sinon, personne ne pourrait rien faire ici, je crois. Moi qui ai quelqu'un de parfait. Non ? Vous êtes comme moi alors, hein, ça va. Dieu n'a jamais confié des missions à des gens parfaits. Et des fois, on se dit, ben, je ne suis pas capable de, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas assez chrétien, je ne suis pas... Enfin, on a un tas d'excuses, mais on ne sait jamais dire oui. Hein. On sait dire non de mille et une manières, mais dire oui, tout simplement, ça, on ne peut pas. Parce simplement, on se réfère à nous-mêmes. Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis prêt? Etc. Dieu n'a jamais pris des gens parfaits. Et quand on voit Jonas, excusez-moi, on est peut-être des fois un peu mieux que lui, hein, enfin, je pense. Donc, on est un peu rassuré. Dieu peut faire quelque chose avec chacun d'entre nous, et tout particulièrement dans l'annonce de sa parole. Dieu confie donc cette mission et lui dit « Lève-toi et dis la vérité », j'ai envie de dire quelque part en résumé. Hein. La mission de Dieu est un ordre ici. Il ne propose pas à Jonas « Bon, Jonas, si samedi soir tu es prêt, après le match peut-être, éventuellement tu pourrais... » Je crois qu'il y en a qui regardent l'Euro. « Tu pourrais éventuellement faire ce que je te demande. » Il ne propose pas, il ordonne. Le Seigneur ordonne là-dedans. Et c'est important ce que je dis là. Il dit de proclamer cette publication que je, donc Dieu, ordonne de faire. Et il dit de crier contre la ville de Ninive. C'est un peu différent que la première fois qu'il a fait, mais c'est toujours la même mission. C'est le juste et saint jugement d'un Dieu qui est souverain sur cette ville. Il va la punir. On peut dire, mais c'est injuste, mais vous vous souvenez, on a vu un peu ce que faisait cette ville, c'était terrible à ce moment-là. Mais Dieu est juste quand il va condamner quelqu'un. Il est souverain, de toute façon, qui va lui dire quoi que ce soit? On ne peut pas. Mais il est saint et il est juste dans cette décision. Et pour lui, il fallait punir cette ville à cause de son péché. Le salut est donc un ordre adressé à l'homme. Dieu dit à l'homme, sois sauvé. Hein, souvent on dit, ah, j'ai choisi d'être sauvé. Vous n'avez rien choisi. À un moment, Dieu est venu et a dit, oh, tu es pécheur, tu es perdu, tu dois être sauvé. Il ne propose pas non plus le salut aux hommes en disant, oh, tu peux, tu ne peux pas être sauvé. Dans Timothée, il dit simplement, il veut que tous soient sauvés. C'est un ordre, quelque part, qu'il adresse à l'homme. Vous devez être sauvés parce que sinon, bah, vous serez loin de moi. Dieu ne propose pas d'être sauvé. C'est un ordre. Sinon, bah, on risque l'enfer, tout simplement. Et derrière cet ordre, qui nous paraît peut-être un peu sévère, je dirais, bah, il y a de l'amour. Quand on dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est parce qu'il les aime. Hein. C'est parce qu'il a tout fait, justement, pour eux, à la croix, au travers de Jésus-Christ, pour qu'ils soient sauvés. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas proposé aux gens, bon, tu peux ne pas être sauvé, hein, mais tu peux aussi accepter. Quelque part, s'il disait ça, il serait cruel. Il permettrait à des gens d'aller en enfer, tout simplement. Cette mission, Dieu nous l'a aussi confiée. Tout à l'heure, en Matthieu 28, on l'a entendu, hein, « Allez par-delà les nations et faites des disciples ». Ce n'est pas une proposition, c'est aussi encore un ordre que Dieu nous donne. C'est un impératif même dans le verbe qui est employé. C'est une logique, en fait. À partir du moment qu'on a accepté Jésus dans notre vie, ça ne serait pas logique, quelque part, qu'on n'ait pas envie d'annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Quand vous avez une bonne nouvelle, hein, généralement, vous l'annoncez à tout le monde. Enfin, normalement. J'espère que quand vous êtes né de nouveau, c'était aussi une bonne nouvelle pour vous et que vous avez envie de le dire quiconque veut bien l'entendre. Mais Dieu nous l'ordonne aussi. Il ordonne beaucoup de choses, hein, non seulement l'annonce du salut, mais il y a deux ordonnances aussi dans l'Église, c'est l'école. J'ai entendu ce mot, ordonnance, ou sacrement, mais bon, c'est pour ne pas se confondre avec les catholiques. La scène.
Le baptême.
Et le baptême. Mmh. On pourrait mettre en parallèle des fois ce baptême, hein, où on attend d'être parfait pour se faire baptiser. Le baptême ne sauve pas, hein, n'oublions pas. Mmh. Et c'est avant qu'on est sauvé. Donc voilà plusieurs ordres, hein, il nous ordonne aussi de vivre la sainteté, et il y aurait un tas d'ordres que le Seigneur nous donne, mais il faut bien comprendre que Dieu nous demande de faire des choses, il ne nous propose pas de faire des choses, et il a payé cher pour que nous puissions nous mettre en marche. Alors, comme pour Jonas, il a son temps avec nous, il a sa patience, il a son amour, mais de temps en temps, il nous fait un petit croche-pied pour qu'on avance, hein, et qu'on grandisse spirituellement. Donc, comme Jonas, Dieu nous a confié la mission d'annoncer l'offre du salut aux pécheurs. Alors nous, on n'a pas Ninive en face, hein, des gens qui empalent, qui tuent, qui agressent, qui tuent à... Voilà, nous, on a des gens encore à peu près civilisés. Alors donc la mission devrait être un peu plus simple, même si je sais que des fois, bah, on se moque, etc. Mais ce n'est pas Ninive encore. Un jour, peut-être, on sera face à des Ninivites. On ne sait jamais. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est que l'offre du salut doit être proclamée. C'est une chose de savoir l'ordre. Oui, il faut que j'annonce l'offre de salut aux gens, mais il faut le faire aussi. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, pour Jonas, c'est une prédication difficile, à cause du peuple. On l'a déjà dit la dernière fois, c'est un peuple méchant, cruel. Et comme on l'a dit, c'est comme s'il fallait aller en Corée du Nord et aller dire à monsieur, Kim, je ne sais plus comment il s'appelle, « Bon, dans quelques jours, Dieu va détruire ta ville. » Bon, je crois que 3 minutes après, on ne parlera plus de vous. Voilà, mais c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que c'est une prédication difficile, et beaucoup de chrétiens le font dans certains pays, aujourd'hui, dans le monde. Mais vous savez, les apparences sont peut-être des fois trompeuses. Comme pour Jonas qui disait « Ah, c'est païens là, ils ne sont pas juifs, donc ils ne méritent pas d'être sauvés, ou alors de toute façon ils ne se repentiront pas », eh bien il s'est bien planté. Et des fois on regarde autour de nous, nos collègues peut-être, nos amis, nos familles, en disant « Cela, jamais de la vie, ils vont changer ». C'est trompeur des fois. On a notre logique humaine, et notre regard humain, et souvent on juge. Alors que peut-être, si on annonçait la bonne nouvelle à ces gens-là, c'est des personnes qui l'accepteraient. Jonas a agi comme cela et s'est trompé amèrement, puisque toute la ville va s'en repentir. Il a cru par sa logique pouvoir désigner qui est capable d'être sauvé ou pas, et il s'est trompé. En fait, il faudrait nous dire que où nous sommes, quiconque est autour de moi peut être sauvé tout simplement, et a le droit d'entendre cette offre. Alors, si on l'a fait plusieurs fois, on ne jette pas les perles aux pourceaux, ça c'est clair, mais tout le monde a le droit d'entendre un jour parler de Jésus-Christ. Alors, difficile, la mission était difficile, oui, d'avertir, à cause des gens, mais aussi peut-être de la taille de la ville. Il a mis 3 jours de marche, ça fait environ 12 kilomètres de le tour de la ville. En tout cas, ça demandait de l'effort. Vous êtes prêts à faire 12 kilomètres de marche, fatigué. 12 kilomètres de marche, simplement pour annoncer l'évangile. Il a fait ça au début, d'abord. Après, il a dû retourner certainement dans certains quartiers. Jonas devait, oui, justement, aller dans tous les quartiers. Tout le monde devait entendre parler de cette menace qui pesait, en fait, sur Ninive. Vous savez, évangéliser, ça demande des efforts. Alors, ça demande déjà du temps, mais ça demande des fois aussi de l'effort, parce que, bon, quand on distribue les traités, c'est un plaisir, mais quelque part, il faut quand même marcher. Des fois, il y a le cagnard, des fois, il y a le froid, c'est pas toujours agréable. Mais on se dit que derrière, peut-être, quelqu'un va lire et va venir à l'église et se convertir. Qui sait ? Ça demande aussi de l'investissement. Alors, ce n'est pas que la distribution de traités. Qu'est-ce qu'on peut programmer comme campagne d'évangélisation ? Enfin, il y a un tas de choses. C'est un effort. À partir du moment qu'on veut annoncer l'évangile, c'est un effort d'aller vers son collègue de travail et de lui annoncer l'évangile. C'est un effort. Ça nous coûte, des fois, un petit peu quelque chose. Mais Dieu veut qu'on fasse cet effort. Et parfois, beaucoup de choses nous paralysent. Alors, on reste muet. Est-ce qu'on travaille trop, peut-être, on n'a pas le temps de le faire? Est-ce que c'est les personnes qui nous font peur? Est-ce que c'est la taille de la ville, entre guillemets, ou la taille de la mission, peut-être, qui nous fait peur? Je ne sais pas. Il y a un tas de domaines, là. Mais quand on voit cette histoire de Jonas, quand on voit, bon, quand on connaît le personnage, mais qu'il a quand même accepté d'aller au bout, c'est quelqu'un qui était imparfait, mais qui a quand même accepté d'aller au bout, quand on voit le résultat qu'il y a derrière, le fruit, toute une ville qui se repent et qui est sauvée, quelque part. Alors, c'est pas le salut éternel, on parle là du salut, on va dire, physique, mais quand même, ça encourage quelque part, non ? Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler à quelqu'un et qui s'est converti après, ou quelque temps après, vous avez appris qu'il s'est converti, moi, ça me réjouit. Enfin, le ciel, déjà, normalement, se réjouit avec les anges quand quelqu'un se convertit, mais si en plus on peut être à l'origine, quelque part, ou participer à ce travail que Dieu est en train de faire dans le cœur de quelqu'un, mais... waouh! En tout cas, moi, je ne suis jamais rentré d'une distribution de traités sans être encouragé et heureux. On a fait ce que le Seigneur nous a demandé. Même si on a failli se faire bouffer par des chiens, ou je ne sais pas. Mais bon, le Seigneur était là. Et je vous encourage justement aussi à vous mettre à évangéliser, à parler du Seigneur, comme Jonas va le faire, parce que ça nous fait du bien, en fait, tout simplement. On aime bien se faire du bien. On pense que regarder la télé, ça fait du bien. Des fois, oui. Mais des fois, il y a d'autres choses qui nous font beaucoup plus de bien pour notre vie spirituelle. Proclame, donc on revient à Jonas, proclame la publication que je t'ordonne, il l'a dit, Dieu demande de prêcher uniquement ce qu'il demande. Donc en fait, il ne cherche pas, quand on parle d'évangélisation ou d'annoncer son message, il ne cherche pas des philosophes, des théologiens, des grands intellectuels pour parler avec les gens. Il cherche des héros, pas avec le O, A-U. D'accord, T, à la fin. Des gens qui proclament tout simplement le message de Dieu. Ce qu'il veut tout simplement, c'est qu'on annonce dans sa simplicité la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'être un super évangéliste ou quoi que ce soit pour parler de Jésus. Être ce que l'on est, je crois que c'est le plus important. Et je pense que parce que je suis comme ça, Dieu va placer des gens devant moi qui vont me permettre... Hein, on va y avoir des affinités peut-être. Et on va pouvoir annoncer l'évangile. Et Dieu demande encore aujourd'hui de proclamer sa publication. Il le dit dans 2 Corinthiens 5:20, vous êtes des ambassadeurs de Christ pour annoncer la réconciliation avec Dieu. Des ambassadeurs. Pas classe, non? Bon, il faut réfléchir, on est des ambassadeurs. Non, ça vous fait rien, quoi. C'est que vous n'avez pas assez bien lu ce texte, hein. Ambassadeur, c'est un titre, je vous rappelle. Hein. Ça nous rappelle qu'on représente tout simplement le royaume de Dieu là-haut. Je représente mon pays et mon roi et mon sauveur. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, je dois annoncer cette réconciliation possible avec Jésus-Christ. Et s'il y a réconciliation, ça veut dire qu'il faut aussi dire qu'il y a un problème entre toi et Dieu pour l'instant. Et c'est le péché, évidemment. C'est avertir les hommes d'un jugement individuel et la possibilité d'être réconciliés. Je me rappelle quand on était allé sur Bordeaux, on faisait de l'évangélisation à l'époque avec l'Institut. Il y a un monsieur qui sonnait aux portes et il disait, la première chose qu'il disait, c'est « Vous allez en enfer, monsieur ». Il n'a pas tort, quelque part. Il y a peut-être plus subtil pour le faire. Hein. Mais ça fait partie, je crois, du message, quand même, de rappeler aux gens ce qu'ils risquent. Hein. C'est avertir les hommes d'un jugement individuel. Ils risquent effectivement l'enfer. Alors, on commencera peut-être pas l'introduction par ça, parce qu'il ne va de toute façon pas vous ouvrir. Hein. Mais dans ce message, dans le contenu de ce qu'on veut dire aux gens, c'est pas simplement de dire que Dieu est amour. Oui, c'est vrai, il nous aime, etc. Mais il va aussi juger à un moment notre péché. Et on risque d'être éloigné de lui pour l'éternité. Il ne faut pas cacher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on a l'impression que c'est toujours quelque chose de beau, de positif. Hein, et on essaie de cacher parfois que l'enfer existe, que le jugement de Dieu sera juste, etc. L'amour de Dieu est lié à sa justice. Les deux sont inséparables. Et si j'annonce l'évangile, si j'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort sur la croix, je dois aussi annoncer la responsabilité de l'homme vis-à-vis de l'enfer ou pas. Et Romains 10 nous rappelle « Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas ?» Comment quelqu'un peut accepter Jésus s'il n'a jamais entendu parler de lui? Dieu s'arrange d'une manière ou d'une autre, hein, mais c'est à nous, justement, d'annoncer l'évangile. Et voilà ce fameux message, hein, encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est ce que vous avez là en hébreu. Alors je vais essayer, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait d'hébreu. Hein. Alors c'est Od Adbaim Yom Venene Nehefaket. Voilà, vous répéterez après avec moi. Hein. Mais c'est un message en 5 mots. 5 mots, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je t'ai mis là. 5 mots. Un message réduit à sa plus simple expression. Et des fois, on croit qu'il faut des grands discours, que quelqu'un soit convaincu de quoi que ce soit, et sur du message de l'Évangile. Et là, en 5 mots, eh ben, les gens vont accepter le message. Donc quelque part, moi, ça m'encourage. Je me dis, j'ai pas besoin d'être un grand orateur, j'ai pas besoin d'être un grand théologien ou quoi que ce soit. Il y a des choses simples qui touchent les gens. Et là, Dieu lui-même, c'est lui qui a ordonné à Jonas d'annoncer ce simple message. Et en 5 mots divins, on pourrait dire, toute une ville va se repentir. C'est encourageant, non? Hein? Ben oui. Donc quand je vais évangéliser, j'ai pas besoin de me préparer à des grands discours, à des grandes batailles de mots. Peut-être simplement se souvenir d'un verset de la Bible, Jean 3,16. Ça peut être intéressant, il y a plus que 5 mots, mais ça peut être transmis et qui sait, ça peut parler au cœur de quelqu'un. Je crois qu'il faut être concis quand on évangélise. Rappeler simplement qu'il y a un péché, que l'homme est pécheur, désobéit à Dieu, que Dieu va punir ce péché, mais qu'il offre aussi le salut. Ces 3 petites étapes, c'est important. Et il n'y a pas plus à dire à quelqu'un. C'est en venant dans l'église qu'il va apprendre beaucoup plus de choses ensuite. Le nombre 40, pourquoi 40 jours? Alors, il y a eu beaucoup d'explications. Bon, on voit plusieurs fois dans la Bible que le nombre 40 est employé, par exemple, pour 40 jours de déluge. Ou alors, Jésus était 40 jours dans le désert quand il a été tenté. Hein, là, on voit qu'il y a 40 jours de patience de la part de Dieu. Est-ce que ça a une signification? Je ne sais pas. Il nous expliquera. Mais il y a un message qui doit être donné là, message d'un jugement. Et ce message, il est toujours d'actualité. C'était valable pour Ninive. Aujourd'hui encore, nous, les détenteurs, on pourrait dire, de la bonne nouvelle, on est appelé à annoncer l'évangile. Et on voit que dans cette troisième partie, il y a un impact, et pas le moindre. Repentance de toute la ville. Vous imaginez si Paris, d'un seul coup, se mettait à se repentir. Vous y croyez? On est honnête, hein. Ça n'arrivera jamais. Hein, mais soyons honnêtes. Mais vous croyez franchement que d'un seul coup, Paris pourra... Allez, étréchi. On va faire plus humble, on est tout courageux dans la foi. Hein. Et pourtant, c'est arrivé un jour à Ninive. C'est fou, hein, quand on y réfléchit. Repentance de toute la ville. Les gens crurent à Dieu. Jonas 3:5. Et ils ont pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Est-ce que nous, on prend Dieu au sérieux? Bien souvent, non. Ils crurent et ils agirent. Ils ont entendu la punition qui les attendait. Ils l'ont cru, mais ils ont aussi agi. Parce que bien souvent, des gens croient en Dieu, mais ils n'agissent pas derrière. Hein. Ou on croit qu'il faut faire ça et ça, mais on n'agit pas derrière. Croire, c'est aussi agir. Croire réellement Dieu, ça conduit à des actes concrets. Et une vraie repentance aussi produit des actes. Hein. Quelqu'un qui se convertit, on va voir à ses fruits cette conversion. Hein. S'il ne se passe rien dans sa vie, je me pose la question s'il est vraiment né de nouveau. Donc, on croit à Dieu, mais il faut aussi agir en conséquence. Sinon, on ne croit pas à Dieu. C'est un mensonge. Et là, cette ville va se couvrir de ça. Hein, le jeûne qu'ils vont pratiquer là, c'est l'humiliation devant Dieu. Ils s'humilient devant Dieu, tout simplement. Ils reconnaissent ce qu'ils sont. Et toute la population va se repentir. Et c'est un vrai miracle. De tous les âges, hein, il est dit, du plus petit au plus grand. Hein. Le jeûne est imposé dans tous les domaines sociaux, hommes, bêtes. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des bêtes, parce que les bêtes, ça ne jeûne pas normalement, mais peut-être c'est plutôt les activités qui étaient liées à ce bétail-là. Hein. Tout le monde s'est arrêté et s'est mis à jeûner. Même le gouvernement. Ah, c'est formidable, ça. Quand je préparais, je me disais, si M. Hollande se convertissait d'un seul coup, qu'est-ce que ça changerait pour notre pays? Je ne sais pas, il faudrait quand même que ce soit tout le Sénat qui se convertisse. Hein. Donc, quelque chose change, mais bon, on ne va pas faire de politique, hein. Mais lui aussi a besoin un jour d'entendre parler de Dieu. Et j'espère que quelqu'un l'a fait déjà. C'est une ville en fait totalement paralysée. Alors nous, on est tout le temps paralysés pour les grèves, les machins et tout ça en France. Mais là, la ville était paralysée parce qu'on s'humiliait devant Dieu. Ah, vivement une grève comme ça, hein. Ça serait bien. Une ville entière qui s'arrête de vivre parce qu'ils ont reconnu leur péché devant Dieu et se repentent devant lui. On va pas lire hein, le vrai jeûne, vous connaissez Ésaïe 58, 1 à 7, hein, qui parle de ce jeûne, parce que souvent c'est très mal compris le jeûne. Hein. Il y en a qui le font pour être guéri, il y en a qui le font pour un tas de choses. Je sais pas si c'est forcément légitime, parce que dans Ésaïe, on parle plutôt d'un jeûne, c'est-à-dire d'une attitude intérieure. Hein. Et, alors, en résumé, hein, il dit « détache les chaînes de la méchanceté ». C'est intérieur. « Dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés, partage ton pain, aide les malheureux ». Cette humiliation intérieure pour dire à Dieu, voilà, ben, je m'humilie devant toi. Mais ça aussi des actes, à droite et à gauche. Et ce n'est pas forcément dans le but d'obtenir quelque chose. Mais Dieu, je crois, est heureux quand on s'humilie tout simplement devant lui. Donc le vrai jeûne est une attitude intérieure d'humiliation. Mais il a aussi des effets extérieurs dans l'aide qu'on peut octroyer aux uns et aux autres. Et donc c'est une reconnaissance nationale du péché qui est là, en Ninive. Le jugement que Dieu prononce est lié au péché de Ninive. Dans Jonas 1, il avait dit « Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi, toute la population était coupable devant lui. » Et puis aujourd'hui, Dieu nous dit dans Romains 3, 23, « Tous les hommes ont péché et sont condamnés à mort. » Le message est toujours valable aujourd'hui. C'est le roi lui-même qui va pousser en plus tout le peuple de Ninive à se repentir. C'est formidable quand ça vient de la tête. Ça pouvait être comme ça. Ils donnent un ordre et qu'ils crient à Dieu avec force et reviennent de leur mauvaise foi. Ils demandent à son peuple de reconnaître leur péché et de changer de voie. Il l'a reconnu lui-même. Et quand on pense au roi de Ninive, qui il était, c'est impressionnant quand même qu'un homme comme ça puisse se repentir, puisse avoir envie de changer d'agissement et de voie. Le roi reconnaît leur culpabilité. Du verset 8, ils ont des mains coupables. Et en faisant ça, et c'est là où je trouve que ce roi est formidable, en proclamant ce jeûne, il est en train de sauver tout son peuple. C'est un bon roi, quelque part. C'est un bon roi. Il a accepté de s'humilier devant Dieu, et il a ordonné à tout le peuple de faire la même chose. Et il a sauvé tous ces gens, quelque part. Et on oublie d'y penser ça. Alors, il n'est pas parfait, hein, parce que 100 ans plus tard, de toute façon, il y aura une grosse punition. Mais il a quand même essayé d'agir en tant que roi, et il a été ça, je trouve, à ce moment-là, même s'il est loin d'être parfait. Et Ninive est pour moi l'exemple d'une vraie repentance. quand on demande aux gens de se repentir, ce serait bien d'aller voir justement ce texte. Il y a des choses là. Hein. D'abord, Ninive reconnaît son péché. Si je dis que je me suis repenti et que je n'ai jamais reconnu mon péché, quelque part, je ne me suis pas repenti. Et quand on pense à ce qu'il devait accepter de dire à Dieu, hein, oui, effectivement, on tue les gens. Oui, effectivement, on a en parlé. Oui, effectivement, on a tué des milliers et des milliers de personnes. C'est pas évident d'avouer ça devant Dieu. Ils se sont réellement repentis de leur péché. Une vraie repentance, comme eux, c'est qu'ils ont compris la sentence. On a dit, ils ont cru que, hein, comme on l'a dit dans l'hébreu, ils vont être punis par Dieu. Ils ont cru. Et c'est pour ça qu'ils se sont repentis. Et beaucoup de gens disent, oui, je crois en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas compris qu'ils risquaient d'aller en enfer. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Donc, se repentir, c'est d'abord reconnaître son péché, c'est aussi reconnaître le jugement qui est juste de la part de Dieu. L'ardente colère de Dieu qui risque de les faire périr. Puis, troisième chose dans cette repentance, c'est qu'ils craignent Dieu. Quand Dieu dit le risque de mort, ils le croient. Ils savent qu'ils risquent de mourir. Pour l'instant, ils n'ont pas plus que ça. Il faut bien comprendre. Ils savent que Dieu va les punir. C'est tout pour l'instant. Et eux se repentent. Ils ne savent pas que Dieu va peut-être ne pas les punir. Ils se sont quand même repentis. Sans savoir, en fait, la finalité de la sentence. Ça, c'est important aussi. L'humiliation, pour moi, était profonde, là, quelque part. Ils cherchent à changer aussi. Dieu voit qu'ils reviennent de leur mauvaise voie, on voit dans le texte. Donc, il y a eu non seulement cette repentance, reconnaissance du péché, reconnaissance de la sentence, le désir de craindre Dieu, mais là-dedans, ça a produit le désir de changer aussi, d'attitude et de manière de vivre. Et ils se repentent, sans même savoir si Dieu va les épargner. Nous, on s'est repentis en sachant que Dieu va nous épargner, si on se repent sincèrement. Mais eux l'ont fait sans savoir. C'est formidable quand on y réfléchit un petit peu. Il y a une authentique et réelle humiliation de leur part. Puisqu'il dit au verset 9, le roi, qui sait ce que Dieu va faire? Donc, eux étaient vraiment, vraiment sincères devant Dieu. Et Dieu, finalement, pardonne à Ninive, verset 10. Dieu voit leur sincérité. Nous croyons pas vivre sans être vus, ne croyons pas vivre sans être vus de Dieu. Dieu voit notre vie en entier. Même quand on n'est pas à l'église, quand je suis chez moi, dans mes moments où je crois être tout seul, Dieu me voit. Et il a vu de la même manière cette ville qui s'est repentie. Mais cette repentance, quelque part, les a rapprochés de Dieu. Quelqu'un écrivait... Supposons que chacun de nous soit relié à Dieu par un fil. Lorsqu'on commet une faute, le fil se rompt. Mais lorsqu'on se repent de sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Ça beau. Du coup, le fil est plus court qu'avant. Et le pécheur est un peu plus près de Dieu. Ainsi, de faute en repentir, de nœud en nœud, finalement, on se rapproche de Dieu. Alors, il ne s'agit pas de se dire « je vais pécher pour me rapprocher de Dieu ». Attention, c'est bien compris. Mais à force de me repentir, il y a cette intimité avec Dieu qui grandit. Et ça me rapproche forcément du Seigneur. Alors, il ne faut pas pécher exprès pour cela, mais bon, on se connaît, on est loin d'être parfait, et ça nous arrivera encore, hélas. Mais on peut se rapprocher du Seigneur aussi de cette manière-là. Il y en a beaucoup qui croient parce qu'ils ont péché, c'est fini, Dieu ne veut plus de lui. Ça fait 15 fois que j'ai refait le même péché, Dieu, ça y est, maintenant, il a toute patience avec moi. C'est complètement faux. Alors, il ne faut pas le faire exprès, on est bien d'accord. Je ne pense pas qu'on pêche volontairement ou pour déplaire à Dieu, mais quand ça nous arrive, Dieu est prêt à nous pardonner. Il est plein de patience. On l'a vu avec Jonas. On est loin d'être un Jonas, je crois encore. Je parle pour moi, je ne vous connais pas. Non, je rigole. Donc... Dieu, si Dieu juge le péché, s'il est capable de dire « je vais punir une ville », il est aussi capable de dire « je pardonne à une ville qui se repent ». Autant il est dur, autant il est plein d'amour pour chacun d'entre nous. Et surtout qu'ils voient leur agissement et le jeûne et leur humiliation sincère devant Dieu, ça fait changer de voie, les objectifs de Dieu et il abandonne en fait l'idée de détruire cette ville. Dieu change d'attitude. Alors on peut se poser beaucoup de questions là, parce que Dieu a des plans déjà prédéfinis, et d'un seul coup il change d'attitude, mais il se repent du mal qu'il avait résolu de faire, et il ne va pas détruire cette ville de Ninive. Le mal que Dieu allait faire, parce que ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que Dieu prévient toujours avant d'agir. Aujourd'hui, il a prévenu Ninive avant de la punir. Il nous prévient aujourd'hui avant aussi qu'un jour Jésus revienne et punisse les pécheurs. On ne pourra jamais dire à Dieu « Ah, mais je ne savais pas. » Je n'étais pas au courant, surtout aujourd'hui avec Internet et tout, peut-être pas exagéré. Hein. Mais Dieu a toujours averti la personne qu'il allait juger. Et ça, c'est plein de grâce. Hein. C'est formidable. Et heureusement qu'il fait comme cela. Et ça démontre aussi qu'il laisse une chance à chacun. Et aujourd'hui, Dieu est encore patient et fait encore grâce à ce monde qui, bien souvent, refuse son pardon, refuse de se repentir. Dieu a tout fait pour que l'homme ne subisse pas sa punition. Il a tout fait, par amour pour nous. Il a donné Jésus-Christ sur cette croix pour que nous n'ayons pas à subir la colère de Dieu. Et les hommes disent, bon, m'intéresse pas. Enfin, pas vous, puisque vous l'avez accepté. Mais Dieu est juste vis-à-vis de l'homme. C'est ça qui est beau. Hein. Il laisse une chance, une possibilité à l'homme de changer. Pour terminer, Dieu a fini par toucher et changer Jonas et Ninive par sa miséricorde. Hein. On se souvient que le thème central de Jonas, c'est la miséricorde de Dieu. Et autant il a fait miséricorde à Jonas, qui se prenait pour le prophète, qui était le serviteur de Dieu, qui était le juif, donc qui était le meilleur par rapport à ses païens, ben Dieu a fait miséricorde à Jonas et il a fait miséricorde à Ninive. Dieu fait miséricorde simplement à celui qui se repent. Ça n'a rien à voir avec la nation, ça n'a rien à voir avec la personne. C'est simplement quand on est sincère devant lui qu'il fait miséricorde. Ninive a cru en Dieu, a reconnu son péché et a agi en conséquence hein, vis-à-vis de tout cela. C'est humilié devant Dieu. On peut croire Dieu, on peut connaître la parole de Dieu, mais on peut ne pas agir aussi. C'est ça le grand problème. Et je nous exhorte, et je pense que ce passage nous exhorte à non seulement croire Dieu, mais aussi à agir en conséquence et faire ce qu'il nous demande. Aux non-croyants dans ce texte, ben, Jésus offre de changer. Alors, je ne sais pas où vous en êtes tous ce matin. Dieu vous offre encore aujourd'hui de changer d'attitude et de se repentir. Dieu fait grâce comme il a fait grâce à Ninive, et on n'est pas aussi cruel que Ninive. Et si aujourd'hui vous n'avez pas encore fait ce pas, ben, réfléchissez, parce que c'est aujourd'hui le jour du salut, ce n'est pas demain. Et il faut vraiment considérer l'offre que Dieu vous fait. Puis à nous qui sommes déjà sauvés, nés de nouveau, Dieu ordonne tout simplement d'annoncer cette offre de salut à quiconque veut bien l'entendre. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la mission ? Amen. Amen. Il n'y en a qu'un, là. Vous êtes prêts à accepter la mission ?
Oui.
Ah, il y a beaucoup de Jonas, là. Hein. On va prier pour ça. Seigneur, merci pour Jonas. Bien souvent, tu nous présentes des êtres imparfaits et quelque part, c'est une chance pour nous qui sommes aussi imparfaits, mais cette personne imparfaite, tu l'as utilisée, Seigneur. Tu l'as transformée d'abord, mais tu l'as aussi utilisée pour travailler avec toi et pour le missionner. Et cela nous réjouit aussi de savoir, nous, qui sommes loin d'être capables ou qui nous sentons parfois pas corrects ou je ne sais pas. Seigneur, tu veux quand même nous employer à travailler avec toi. Seigneur, tu vois cette offre de salut qui a été proposée à cette ville et dans ton amour, Seigneur, tu as averti et on a vu l'effet positif dans cette ville, une ville humiliée, une ville qui accepte ta sentence, mais une ville qui se repent et voyons ton amour et ta miséricorde pour cette ville. Et Seigneur, nous voulons regarder maintenant autour de nous et peut-être cesser de juger ou de dire celui-là mérite ou pas. Tu veux placer devant nous tout le monde, Seigneur, que nous puissions aussi proposer cette offre de salut. Tu as ton temps, tu as ta manière, Seigneur, mais pousse-nous à vraiment œuvrer dans ce sens-là. Tu nous as appelés à aller par-delà le monde et d'annoncer l'Évangile, Seigneur, et c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas être avec de grands discours, Seigneur. Tu nous as montré que des paroles toutes simples, parfois, peuvent être plus efficaces. Apprends-nous à parler, apprends-nous à connaître ta parole, peut-être, pour trouver des versets, peut-être des mots-clés qui peuvent aussi nous aider à annoncer l'Évangile de façon plus efficace. En tout cas, fais de nous un témoin qui brille, une lumière dans la ville d'Étrichy, des Tempes et là où tu nous as placés, Seigneur, et pour que d'autres puissent te connaître à l'image de Ninive. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.